France Inter.
Salut, bah écoute, ça fait plaisir d'avoir une émission sur Pop Marley. Par contre, voilà, un petit peu surpris, effectivement, de ne pas avoir entendu parler de l'Iskra Tupéry, qui, lui, a quand même vécu jusqu'à il n'y a pas très, très, très longtemps, et qui est quand même sacrément derrière la réussite des musiques de Pop Marley. Et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a une mésentente à un moment donné, voilà, pour faire sortir le reggae de la Jamaïque ou pas. Les deux étaient pas trop d'accord, donc voilà, ce sont aussi des moitiés d'histoire dont on n'entend pas trop parler. Écoute, en une heure, c'est sûr que c'est difficile de tout faire. En tout cas, stylé ton émission, merci beaucoup, à bientôt.
Salut Frédéric, quand j'étais ado ou jeune adulte et que on buvait un petit peu trop d'alcool, on disait qu'on était Red Dead, et Red, R-A-I-D-E. Du coup, là, le fait que vous fassiez une émission et que vous parliez d'un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption, eh ben du coup, j'arrivais pas à m'imaginer autre chose qu'un mec en gueule de bois qui cherche juste le repos, quoi. La rédemption du lendemain de cuite. Allez, bisous.
One love, one heart, let's get together and be alright. Je crois qu'on a besoin d'un peu plus de Bob Marley dans ce monde pour supporter toutes ces brutes. Merci Blockbuster.
Salut Blockbuster, merci pour cette émission sur Bob Marley, ça m'a rappelé toute mon adolescence. Juste petit témoignage, moi j'ai eu la chance de voir notre roi Bob Marley à Orléans en 1980. J'avais 14 ans. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait le mur, où j'ai menti à mes parents pour être sûre d'aller le voir. Premier grand concert de ma vie et c'était trop bien. Et Bob Marley m'accompagne dans ma vie encore aujourd'hui. Merci encore. Bonne journée. À plus.
Not to be, not to be.
Je suis profondément convaincu que le monde du travail français aurait besoin d'un peu plus de Gaston Lagaffe et moins de ministres du travail. Alors attention, hein, j'ai rien contre les ministres du travail, mais on peut pas dire que ce quinquennat se soit fait remarquer par sa capacité à repenser le rapport travail-salarié. Par exemple, le Covid a plus fait pour le télétravail que le gouvernement actuel. Mais Gaston Lagaffe, lui, il a vraiment une vision disruptive du travail. Gaston, contrairement à l'idée reçue, il n'est pas feignant. Il est force de proposition pour optimiser au mieux le process de son temps de travail. Gaston, il benchmark, il brainstorm pour améliorer ses conditions de travail et celles de ses collègues. Gaston Lagaffe, il fait 35 heures dans une boîte tout en cherchant à le réduire à 25. Car il sait, il a vu la lumière. Il sait que les drogués du travail sont avant tout des gens qui se perdent dans des réunions interminables devant des PowerPoint ou des tableaux Excel où on répète sans passion pendant une heure ce qui tenait en trois lignes dans un mail qu'on aurait dû se contenter de lire. Il sait, Gaston, que le monde du travail moderne a inventé tout un tas de bullshit jobs où on invente des mots et des concepts pour faire oublier qu'au fond, on sert pas à grand-chose. Gaston, c'est un résistant de l'intérieur, un syndicaliste non encarté. Et quand il empêche Monsieur de Messmaker de signer ses fameux contrats, on le sait pas, mais Gaston souffre peut-être des centaines d'emplois. Si seulement Gaston Lagaffe avait bossé à Canal+ avant Bolloré.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
On dessine des personnages et on ne sait pas pourquoi on les dessine. Hein. Et c'est un peu ce qui est amusant dans le métier, c'est-à-dire on crée un personnage et puis on le lâche dans la nature, ou du moins dans la bande dessinée, ou dans un bureau, mais on ne sait pas exactement ce qu'il va faire à l'avance, tu vois. Je crois qu'on dessine une partie de son caractère, tu vois, en l'exagérant beaucoup. Le même dessinateur peut dessiner 10 ou 15 ou 20 personnages de caractères différents, mais il prend toujours un petit morceau de son caractère à lui, il l'exagère, tu vois. On s'amuse d'abord soi-même. Certaines bandes dessinées, du moins celles que nous avons faites depuis des années, c'est de la bande dessinée pour faire plaisir, pour amuser, pour faire rire. Nous sommes heureux quand nous faisons rire.
Quand on pense à la France et à la bande dessinée, en général, dans un premier temps, on pense à Astérix, l'œuvre de Goscinny et Uderzo. Mais assez rapidement, nous viennent à l'esprit des personnages tels que Spirou et Fantasio, le Marsupilami et Gaston Lagaffe. L'œuvre d'un génie devenu pilier de la bande dessinée franco-belge, André Franquin. Pour revenir sur la vie de ce maître du dessin, je suis en compagnie de Didier Pazamonique. Bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Vous êtes le directeur de la rédaction du site actuabd.com et vous avez bien connu Franquin car vous étiez l'éditeur de la série Modeste et Pompon.
Mais oui, parce que j'étais un tout jeune éditeur et Franquin a exigé du Lombard de me donner les droits. Donc j'étais privilégié.
On va découvrir ça. Avec nous, Nicolas Télop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et rédacteur en chef des hors-séries des Cahiers de la BD et vous êtes l'auteur de L'Anti-Atome, Franquin à l'épreuve de la vie aux éditions PLG, paru en 2017. Avec nous également, Jessica Cohn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine, spécialiste du dessin de presse et de la bande dessinée.
Tout à fait, j'ai travaillé sur le métier de dessinateur de bande dessinée.
Parfait. Et avec nous, Luc Collin, alias Baptême, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le dessinateur du Marsupilami.
Oui, oui, dessinateur historique, le titulaire du Marsupilami, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui.
Le titulaire du Marsupilami. Les présentations sont faites, je n'ai qu'une seule chose à dire.
Ouba, ouba.
Que la prophétie commence.
De tout temps, l'orchidée de Chicxulub a donné force et jeunesse au peuple Paya. De tout temps, l'orchidée a donné vie au Marsupilami. Le Marsupilami, gardien de l'équilibre du monde. Mais aujourd'hui, le Marsupilami est menacé. Car Visage Double est arrivé. Et Visage Double volera l'orchidée. Et il tuera la forêt. Et notre peuple mourra, comme dans Avatar. L'homme à la main carrée et le filou aux pieds jaunes devront ensemble redonner force et puissance au troisième papaya, la femme d'or et d'argent. Et ils devront faire éclater la vérité pour sauver les trois trésors de la forêt. Mais s'ils échouent, alors le monde basculera dans le chaos. Les oiseaux chanteront faux. Le jaguar se fera manger par le lapin. Et l'arbre coupera le bûcheron.
Bûcheron !
Tout aura goût, fruit de la passion. Tout le monde mettra son pull autour des épaules. Les tortues auront des épaules. Et le volcan, El Sombrero, crachera du feu, dévastant la terre pendant 1000 ans et 2 semaines et demie.
C'était un extrait du film Sur la piste du Marsupilami réalisé par Alain Chabat en 2012 avec les voix de Lia Kebed dans le rôle de la reine Paya qui nous raconte la prophétie du Marsupilami et on entendait bien évidemment Alain Chabat et Jamel Debbouze. Nicolas Télop, ma première question, que à mon avis vous ne voyez pas venir,
non,
mais
non.
D'où vient André Franquin ?
Bah de Belgique, hein, je pense que...
Merci d'être ouais. venu
Vaste question, hein. Je pense qu'il a commencé à travailler aux côtés de Jigé, hein, c'est Jigé qui lui a confié la série Spirou et Fantasio à un moment où il en avait assez. Et il voulait voir d'autres choses. Et il a commencé avec des petits récits. D'abord, en parallèle des aventures qui étaient poursuivies par Jigé. Et puis, très vite, il a pris le contrôle de la série. Et c'est lui qui, finalement, a créé, pour ainsi dire, la mythologie de Spirou et Fantasio. Parce que, bien sûr, il y a Rob Vell avant, il y a Jigé, on vient de le dire, mais la série, elle commence avec lui, véritablement, parce que le personnage de Spirou est aussi, et surtout peut-être celui de Fantasio, ils prennent leur caractère sous sa plume, et surtout le ton qui est le sien, l'humour, le goût pour l'aventure, la narration qui lui est propre, il commence à l'exercer à travers cette série. Mais ce sont les débuts, en tout cas, de Franquin en tant qu'auteur.
Jessica Cohn, à quoi ressemble cette époque de la bande dessinée au moment où existe le journal de Spirou parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de ce qui nous revient, il y a cette opposition entre la ligne claire d'Hergé et le style de dessin qu'on pouvait trouver dans Spirou. Mais à quoi ressemble la bande dessinée à ce moment-là?
Alors, Franquin se met à travailler vraiment donc, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Il commence dans le dessin animé avant de se lancer dans la bande dessinée. Et quand on étudie sa vie, ce que Nicolas est en train de raconter, ça permet vraiment de comprendre l'univers de la bande dessinée de cette époque, et un univers qui déjà est franco-belge, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'échanges entre le monde éditorial français et le monde éditorial belge. Les deux journaux principaux de cette époque en Belgique, c'est Spirou et Tintin, mais ils sont aussi publiés en France. Et c'est un milieu qui, en Belgique, est très lié aux études d'arts appliqués, et donc qui forme un espèce de petit microcosme où rapidement, dans les rédactions, les dessinateurs apprennent à se connaître, voire vont travailler les uns chez les autres. C'est comme ça que Franquin se retrouve chez Jigé. En fait, non seulement il travaille pour Jigé, mais il habite chez lui.
Parce que Franquin a fait une école d'art.
Il a fait une école d'arts appliqués, oui, l'école Saint-Luc de Bruxelles, comme la moitié des dessinateurs belges de son époque.
Pas longtemps. Hein.
N'empêche qu'il dit qu'il y a appris beaucoup de choses. Alors il dit qu'au bout d'un an, il avait fait le tour, mais que tout ce qu'il y a appris lui était utile. Bon, c'est un peu ce que disent tous les dessinateurs de cette époque. Ils avaient besoin d'apprendre.
D'une sorte de validation.
De commencer en art. Mais c'est en atelier auprès d'autres dessinateurs qui devenaient dessinateurs de bande dessinée et plus dessinateurs tout court. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est formé par Jigé. Et à la suite de ça, comme c'est un espèce de microcosme, il va à son tour former des dessinateurs. Notamment Roba, JDM. Et donc c'est dans ce milieu qu'il évolue à l'époque, avec quand même des liens avec la France. Voilà.
Didier Pazamonique, Franquin était quel genre d'individu? Parce que quand on se lance comme ça dans la bande dessinée, on le sait, même si des structures existent, même si des écoles d'art existent, c'est toujours une gageure que d'annoncer à ses parents qu'on va devenir dessinateur quand ils avaient peut-être d'autres aspirations pour vous. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé pour lui?
Oui, je pense que ses parents ne s'attendaient pas à ce qu'il devienne dessinateur. Donc le truc, c'est qu'il est en conflit avec son père assez rapidement, et donc... il va prendre sa liberté, et sa liberté, ça passe par le boulot. Et effectivement, il y a ce studio de dessin animé, Studio CBA, dans lequel il rentre, où il va rencontrer des gens déterminants pour lui. Il rencontre Maurice, le futur auteur de Lucky Luke, il y rencontre Peyo, le futur auteur des Schtroumpfs, il y rencontre Pape, qui est aussi un dessinateur réaliste, qui va faire Lucorian plus tard, et ces gens-là sont les piliers de la bande dessinée. Et en fait, Franquin pense qu'il est le responsable de l'incendie du studio de dessin animé, parce que c'était des films très inflammables, et il a dû laisser... Enfin, c'est son discours. Il a laissé traîner une cigarette, et puis le studio est parti en fumée, ils se sont retrouvés au chômage. Et
c'est Maurice, quelque chose qu'on aurait pu retrouver dans les Un Gaston. Hein.
Voilà, exactement. Donc oui, il incarnait un peu Gaston. D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu dire « Gaston, c'est moi ».
Baptême, comment s'est passée votre première rencontre avec l'œuvre de Franquin?
La toute première rencontre, c'est quand j'ai réalisé que mon papa était abonné au journal de Spirou et qu'il avait gardé pas mal d'exemplaires dans la cave. Et dès que j'ai pu lire et que j'ai découvert ces bandes dessinées, ces revues, ces magazines, je me suis jeté à corps perdu là-dedans. Je me suis dit, c'est pas du dessin que je veux faire, c'est de la bande dessinée. Et tout de suite, j'ai jeté mon dévolu sur Gaston Lagaffe à l'époque. Et pas trop Spirou et Fantasio, parce que le premier album, la première histoire que j'ai lue de Spirou et Fantasio, c'était La Mauvaise Tête. Et pour le gamin que j'étais de 6-7 ans, voir ce Spirou amnésique, bon, l'album est tombé des mains. Mais mon premier contact, c'est Gaston, on est en 65-66.
D'accord, donc ça a été... Et est-ce que vous pourriez nous expliquer la singularité du trait de Franquin?
Pour moi, c'est bien ça. Bon, on sait qu'il a le génie du dessin et que tout ce qu'il est capable... Enfin, tout ce qu'il dessine, il l'anime, il donne vie à tout ce qu'il dessine. Et alors, il y a un truc que j'ai constaté, c'est qu'évidemment, il pousse très fort et très loin ses crayonnés, mais... Et c'est ça qui le différencie de la ligne claire, c'est qu'à l'ancrage, ce qu'il appelait lui le silhouettage, c'est un terme qui ne lui convient pas, il redessinait à la plume. Vraiment, donc, il redonnait une autre vie à son trait de crayon. Alors que beaucoup de dessinateurs trouvaient un petit peu dommage d'abîmer leur joli crayonné en l'ancrant. Voilà, pour moi, c'est la particularité du dessin de Franquin. Et je me souviens aussi, mais ça c'est vraiment pour la petite histoire, il m'avait dit un jour, mais ça on est plus dans les années 70, 70, comme on dit chez nous, quand il travaille à la plume, donc il a laissé tomber le pinceau, il est sur ses Gastons un petit peu, où il chipote un petit peu plus, il met plus de petits pointillés, des textures, où il fait des noirs moisis, pour le paraphraser, et il disait, j'aime bien garder une petite touche vulgaire. Et étonnamment, entendu à nouveau cette expression dans la bouche de Gottlieb quelques années plus tard. Bon, voilà, j'espère avoir aussi à mon tour répondu à votre question.
Mais très très bien, très très bien. Nous sommes tous ensemble, tous et toutes ensemble pour évoquer la vie d'André Franquin, mais pour le moment, on va écouter Je crois que ça va pas être possible du groupe Zebda.
Moi, ce que je vous propose comme entrée, je fais des fixations, je sais, devant les portes d'entrée. N'importe lesquels, surtout les bien gardés, avec 100 kilos de muscles à la clé. Devant trop de barbacs, c'est vrai, je fais des rejets, mais je peux dire que je maîtrise le sujet. Les portes, je connais, j'en ouvre tous les jours, mais j'en ai vu claquer plus souvent qu'à mon tour. Tiens, je vous fais un topo sur l'accueil à l'entrée des boîtes.
Veuillez entrer, monsieur, votre présence nous flatte.
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Devant les boîtes, moi, j'y suis toujours à la merci d'un imbécile à qui je sers de cible et qui me dit
Oui, mais là, je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être.
C'est comme ça.
Possible.
Oui.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être.
Non,
possible.
Exact.
Voici mon plat de résistance. Comme tout un chacun, j'ai bossé pour ma pitance. Et histoire de vivre convenablement, je me suis mis à la recherche d'un appartement. J'ai bichonné un excellent curriculum vitae, couleur et Macintosh à toute qualité. En prime irréprochable, situation morale, et même quelques feuilles de salaire.
La totale.
Allez vas-y Diodo, fais-leur le proprio.
Oh, c'est un honneur pour moi, je vais vous montrer le patio.
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Quand il m'a vu, j'ai vu que tout s'est assombri. A-t-il senti que je ne lisais pas la Bible et il m'a dit
Ah oui, mais là je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Et non,
pas être.
Désolé.
Possible.
Comme ça.
Je crois que ça va pas être possible.
Et
pas
oui.
Être. Possible.
Une excuse, monsieur.
Bonheur étant toujours pour demain, j'ai placé quelques thunes pour un petit jardin, un petit nid et balcon sur la prairie des filtres avec piscine au bord de la Garonne.
Si, si, j'insiste.
Mais ce putain de bonheur n'est jamais dans le pré. J'ai appelé le bon sens près de chez vous pour un prêt. Mais les banques,
c'est les banques.
Comment vous dire,
les mots me manquent.
Alors je vous fais le topo des grosses têtes.
Ah, il vous manque des points pour compléter votre traite, hein.
Vous devriez, me semble-t-il, pour assurer les traites,
mettre à jour et un terme à l'ensemble de vos dettes. Ah ouais.
Et puis il a souri en me disant c'est terrible, mais
je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être possible.
Désolé.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être possible.
Ah non, pas possible.
Je lâcherai pas l'affaire.
Cousine, cousine.
J'ai la patate à faire peur à la pile alcaline. Et je ferai pas comme celui qui va prendre un billet dans la chaleur de la nuit.
Et je sais tous les noms d'oiseaux dont on nous traite. Et un jour je sais bien que c'est nous qu'on fera la fête. À tous ces gens qui vivent dans les autres sphères, je vais les inviter à mon joyeux anniversaire. Et la plus de...
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a
de rebelote.
Qui c'est celui-là?
Et à toutes ces tâches qui vous jugent à la figure, je leur ferai une justice avec les chaussures. Et quand ils voudront sortir, là ce sera terrible. Je leur dirai
je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Ah non,
pas être possible.
Non.
Je crois que ça va pas être possible. Pas être possible.
Bien sûr, si, c'est pas possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être
non,
possible.
Non, pas possible. Non, non,
je crois que ça va pas être possible.
Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Entendez le générique de la série animée Spirou de 1992 et les paroles de Philippe Fontaine, musique de Ralph Benatar, chantée par Paul Hada. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que le style atome, Nicolas Taylop ?
C'est une drôle d'histoire, hein, parce que le terme même pose problème, en tout cas c'est comme le baroque, c'est un terme qui a été donné a posteriori. Le style atome, il n'existe pas, le nom n'existe pas au moment où Franquin, Will, Maurice, etc. Le pratique en quelque sorte. Et en plus il est formulé par Jules Swart, un très très grand dessinateur de la ligne claire, justement, qui a aussi formalisé l'expression ligne claire, qui n'existait pas non plus du vivant de Hergé, en tout cas pendant qu'il est en activité. Et là où, quand il invente le terme ligne claire, c'est très sérieux, quand il formalise l'expression style atome, c'est sous l'effet d'une plaisanterie. C'est une blague plutôt qu'autre chose. La planche qui est présente, où ça intervient, c'est presque un gag plutôt qu'autre chose. Mais ça a été très vite pris au sérieux, et à juste titre, parce que c'est très intéressant. L'expression même est très intéressante, parce que quand on parle de style atome, on fait référence aux années 50 et à l'importance que l'énergie atomique a pu tenir dans le monde entier, et notamment en Europe et en Belgique pour la reconstruction du pays après la guerre, et notamment aussi à ce qui est un petit peu... comment dire, le point d'orgue en fait de cette période d'âge d'or, l'exposition universelle qui a lieu à Bruxelles en 1958.
Et est-ce que cette exposition universelle et ce moment où on regardait un petit peu la science comme la panacée, la solution à tous les problèmes de la civilisation, c'est aussi ce qui explique le regard particulier que Franquin a dans toute son œuvre sur les inventeurs, la science, quelle que soit sa bande dessinée ? Jessica Combe ?
Je pense que c'est vraiment quelque chose de typique des années 50 et 60, cette affection pour le scientifique et le technique, et qu'on retrouve beaucoup dans les illustrés pour la jeunesse, avec cette idée qu'on va éduquer les lecteurs à une culture scientifique, à une culture technique, et donc dans tous les numéros, c'est quelque chose qui revient. Et ce qui est intéressant dans le cas de Franquin, que ce soit dans Spirou et ensuite... dans une autre mesure, dans Gaston Lagaffe, c'est qu'il a repris en fait cette culture scientiste, techniciste des années 50-60, et en fait il l'a élaboré d'une certaine manière en mythologie.
Oui, moi je pense que dès le départ, avant même les années 50, enfin dès sa première histoire qui est publiée dans le journal de Spirou, à savoir le Tank. Il y a une volonté de la part de Franquin d'être un peu le chroniqueur de son temps. C'est-à-dire qu'immédiatement, quand il imagine une aventure de Spirou et Fantasio, c'est pas une aventure qui invite à l'imaginaire, à l'évasion, à l'ailleurs. Non, on est dans le contexte historique immédiat, c'est-à-dire la libération de Bruxelles. Il y a encore des Américains qui sont présents. Alors bien sûr, c'est traité de manière burlesque. Les soldats américains vendent leur matériel, en l'occurrence, ils vendent un tank, c'est quand même un petit peu invraisemblable, mais c'est intéressant de s'inscrire dans le moment présent, quitte à justement être effectivement assez critique, en tout cas dubitatif. Il y a beaucoup de satire dans cette première histoire et même dans les suivantes. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure des années, il y a une volonté de la part de Franquin de chroniquer effectivement cette actualité, et comme l'actualité des années 50, c'est quand même cette réinvention du monde à l'aune de la technologie, à l'aune de l'atome et de tout ce qui y est associé, il y a forcément pour lui quelque chose comme une matière première qu'il retranscrit dans ses albums.
Didier Pazamonique, quand Gaston fait pour moi figure de bande dessinée franco-belge ultime, la qualité de son trait, l'intelligence de ses gags et tout ça, Ça, pas une seule lecture vous rend malheureux. C'est quelque chose que j'ai pu transmettre à mes enfants. Quel que soit leur âge, on peut lire Gaston et toujours rire. Comment quelqu'un capable de donner autant de joie et de divertir autant ses lecteurs pouvait être ce sujet à la dépression ou à la tristesse ? Vous qui l'avez connu, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette ambivalence ?
Je pense que Bathème l'a connu encore mieux que moi. Mais juste un petit point de retour, quand Jules Swart fait parler son personnage, en fait, la définition du style atome, il l'a dit clairement. c'est un style joueur avec le design. Et ça, c'est la dimension qui manque un petit peu dans cette lecture, c'est que, en fait, Franquin, c'est un fan de design. Et Will, qui est à côté de lui, également. Et l'aspect technique, c'est très juste ce que tu disais, Jessica. L'aspect technique, ça les intéresse vraiment, mais c'est pratique. C'est-à-dire que c'est des gens qui adorent les voitures, par exemple, qui adorent l'aviation, qui...
Oui, donc il y avait un plaisir de dessiner des véhicules aussi.
C'est pire que ça. Enfin, moi, j'ai participé... Il avait une habitude, quand on allait dîner, on dînait à plusieurs, régulièrement, j'ai dîné avec lui. Je ne sais pas si ça t'est arrivé baptême, mais en fait, il demandait aux convives autour de la table de dessiner. Et il me disait, allez, dessine-moi un vélo. Et puis après, il regardait, il me disait, mais il ne marche pas ton vélo, t'as vu où t'as mis la chaîne, comment la pédale peut fonctionner. Et en fait, si Franquin est un dessinateur humoristique, c'est un dessinateur réaliste aussi. Baptême pourra le confirmer. Il disait, la caricature, c'est le réalisme, c'est de la caricature, et la caricature, c'est encore du réalisme. Voilà, ça c'est pour répondre...
Mais ça, c'est une phrase qu'on pourrait mettre en exergue pour beaucoup de choses. La caricature est du réalisme, et le réalisme est de la caricature.
Et pour en revenir à la question de Gaston est vraiment typique de son époque, mais je pense pas que ce soit... Une analyse purement sociologique. Au fond, là où il y a un lien avec l'époque, c'est que l'univers de Gaston, c'est l'univers du tertiaire. Mais c'est un univers fantasmé. Il y a rien qui correspond à la réalité sociale. Si on regarde le rapport avec l'éditeur, etc., c'est complètement...
Ça, c'est parce que vous ne voulez pas qu'on vous compare à M. de Messmaker, Didier Pazamoni. Je vous vois.
Oui, non, mais je ne suis pas un signataire. Je cherche pas à faire signer des contrats. mais c'est intéressant, pourquoi le contrat avec de Messmaker, en fait, il n'est jamais signé. C'est tout le gag est là. Et du reste, si on réfléchit 5 minutes, qu'est-ce qu'il vient faire ce de Messmaker chez Dupuis? Et c'est un contrat pourquoi? En fait, on se rend compte que c'est un contrat qui n'a pas d'objet. Et donc... c'est ça qui est intéressant. Et alors, pour répondre à la question de comment un gars comme ça peut être... c'est parce qu'il est de son époque. Quand on parle de l'après-guerre et que y a cet intérêt pour la technique et la science qui est vraiment... S'il y a bien une expo universelle complètement m'as-tu vu, c'est celle de Bruxelles en 1958, avec des constructions... Enfin, il y avait Corbusier... des constructions absolument incroyables. C'est la découverte aussi de la peinture abstraite en 58, où les gens voient Jackson Pollock et se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je peux faire la même chose, simplement jeter de la peinture sur la toile.
Ah, en 2024, ils se le disent toujours.
Peut-être, mais en tout cas, c'était vraiment le grand choc de l'époque. Il ne faut pas oublier qu'on venait d'une peinture réaliste, etc. Et donc, c'est en ça que le dessin de Franquin, la période de Stilatome, est justement une période où il incarne l'espoir dans une technologie qui va sauver le monde, qui rend la vie pratique. Et Gaston, il est typique de ce que on a surnommé à l'époque la bof generation. C'est-à-dire à quoi bon? C'est-à-dire on n'a plus trop. C'est la période qui précède, le punk.
Oui.
C'est-à-dire que vraiment, c'est Gaston à l'époque, il est mou. Enfin, c'est une espèce de latex, quoi. Et puis, avec le temps, cette mollesse va se transformer en révolte. Et là, il va devenir écolo, il va critiquer les curés.
On va y venir. Mais justement, Didier Pazamonique, vous avez parlé de révolte. Il y en a une qui se révolte énormément, qui s'appelle Bonnie Banane, qui nous chante franchement.
Les humains prolifèrent, y'a trop de monde sur terre.
Ghostbusters. Frédéric Sigrist sur France Inter.
Je crois que c'est un enfant, finalement, garçon. C'est un enfant attardé. Je l'ai créé pour me détendre, parce que c'est un personnage mou, paresseux, endormi, fatigué de nature. Il est surtout fatigué de nature quand on le met devant un travail qui ne lui plaît pas. Finalement, Gaston fait un travail gigantesque de bricolage à la place de son véritable travail de bureau. Et finalement, c'est un grand travailleur, Gaston. Mais il ne fait pas le travail qu'on attend de lui. Je crois que c'est le gros problème de Gaston. Gaston fait certaines choses à ma place. Je crois que Gaston bricole alors que je suis moi un bricoleur refoulé. Je crois qu'il est heureux parce qu'il est assez inconscient. Il ne se rend pas compte des dégâts de ses actions. Il n'est pas très responsable.
Mon vin.
Vous venez d'entendre une interview de Franquin donnée en 1975 au Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui raconte la création de Gaston Lagaffe par lui-même. C'est une archive INA. Baptême, donc je vous pose la même question qu'à Didier Pasamonique. Comment quelqu'un qui a su se, quelque part se réinventer sous les traits de ce grand enfant attardé, comme il le dit lui-même, comment ça se fait qu'il pouvait être sujet à des grandes crises d'angoisse?
Ça c'est un grand mystère, parce que lui il expliquait en disant qu'il était malade. Il m'avait toujours donné l'exemple, parce que je le rappelle, effectivement, il s'intéressait à la science, et lors des dernières années de sa vie, lorsqu'il avait ses coups de mou, il s'assoyait dans un fauteuil et il lisait des sciences et vie ou des sciences et avenir. Donc il était toujours mordu, jusqu'au bout il a été mordu par la science. Mais il m'avait dit qu'il avait lu un article sur des araignées auxquelles on aurait supprimé telle ou telle molécule, et dès lors elles devenaient incapables de tisser leur toile. Et il se comparait à cette araignée à laquelle on aurait supprimé cette molécule. Dieu sait de quelle façon, mais toujours est-il que dans ces moments-là, il y avait des gros coups de mou, il ne dessinait plus comme il le souhaitait, il prétendait ne plus savoir dessiner, moi je vous garantis que ça restait un génie du trait, mais bon, il avait des blocages, ça c'est une certitude. Et il m'a toujours raconté également que tout ça était parti du fait que chez lui, quand il était enfant, on ne riait pas, et que ça lui avait manqué énormément. Donc, quand il a pu prendre sa liberté, comme l'expliquait tout à l'heure Didier, travailler et trouver une forme d'indépendance, ça a été évidemment en se mettant au dessin, mais du dessin pour faire rire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je pense que la seule fois où je l'ai vraiment vexé, c'est quand je lui ai dit que même à travers ses idées noires, il ne parvenait pas à amener véritablement une véritable, dépression, déprime, même ses idées noires faisaient rire. Et là, ça l'avait touché, parce qu'il dit, non, mais quand je les montre à Liliane, son épouse, donc, elle est vraiment terrorisée par les idées que je véhicule. J'ai dit, oui, les idées, oui, mais la façon dont tu les traites, elles sont éminemment drôles, drôlatiques, c'est plus fort que toi.
Et il était également connu pour avoir des idées très arrêtées sur la religion. J'ai lu qu'il disait que les religions, pour lui, c'était une secte qui avait réussi. Il était aussi opposé à l'armée. Il a notamment conçu des affiches pour Amnesty International et pour l'UNICEF. Oui. Il était opposé à la guerre. Très conscient de la condition animale. Est-ce que finalement, Franquin, c'était avant même qu'on puisse vraiment poser des mots dessus, un auteur, un artiste très engagé?
Ah oui, certainement, sans se prendre au sérieux, mais engagé. On sent qu'il s'investit, qu'il s'engage de façon plus précise à mesure que ses dépressions viennent ou repartent. D'ailleurs, c'est plutôt sur la fin qu'il commence à dire « on voit Gaston qui prend parti pour Greenpeace, etc. » Effectivement, il y a cette merveilleuse page sur Amnesty International qui fait peur. Celle-là, elle fait peur, effectivement, contrairement à ce que disait tout à l'heure. Mais mais il se soigne quand même. Il continue à se soigner en dessinant tout ça. Et peut-être a-t-il besoin d'exprimer tout ce qu'il n'a pas pu exprimer par la suite. Il le dit, lui, il évoquait tout à l'heure de Gaston qui était un enfant qui avait grandi un peu trop vite, mais c'est lui ça. Il regrette sa vie d'enfant et la naïveté, le regard un peu... Enfin, l'insouciance de l'enfance. L'insouciance, évidemment, ça lui manque énormément. Et c'est pour ça que quand on avait nos séances de travail, il ne se privait jamais de partir dans les grands fous rires. Bon, ils sont classiques, bien connus. C'est les grands fous rires, les grands rires tonitruants d'André Franquin en dessinant. Il se fait rire lui-même. J'ai écouté dernièrement, il y a un podcast qui a été réalisé, où c'est un tout petit peu énormément de passages qui sont tirés des entrevues qu'il a eues avec Numa Sadoul pour le fameux bouquin « Et Franquin créa la gaffe ». Oui. Je retrouve André Franquin quand il raconte, il rit de ses propres blagues, il rit de ses propres gags, et parfois il se tape sur la joue en se disant « je suis vraiment con, ça c'est nul », mais le plus souvent il rit. c'est vraiment une thérapie chez lui. Mm-hmm. Le dessin et faire rire les autres, c'est évident. Et me l'a prouvé. Et d'ailleurs, un jour, si je peux me permettre, si j'ai un peu de temps, j'arrive à l'atelier chez lui et il avait, j'imagine de façon intentionnelle, agrafé quelques gags au crayon qu'il avait esquissé pour un éventuel gag de Gaston et il les avait mis au mur. Et je passe, et évidemment, moi je suis un peu un ordinateur, je scanne tout ce que je vois et je rentre dans cet atelier, je plonge directement sur ces deux pages de gags et je ris, c'était pas publiable pour Gaston, enfin je pars dans un fou rire, il a été heureux, il m'en a reparlé pendant les deux ou trois séances qui ont suivi, tellement je lui avais fait du bien en riant, mais je faisais pas semblant, c'était éminemment drôle.
Enfin bon, c'était il se nourrissait de ça, il se nourrissait des rires. Ouais. Jessica Cohn, quand Franquin a démarré, la bande dessinée était naturellement destinée à un public enfant. Mais en fait, au fur et à mesure de sa carrière, on a vu que les bandes dessinées commençaient à s'adresser à des jeunes adultes, puis même carrément à des adultes. Les idées noires, notamment, qu'il a pu créer, s'adressent cette fois-ci totalement à des adultes, même si, comme on vient de le dire avec Baptême, ça reste drôle. Même s'il ne le voulait pas, il y a quand même certaines planches qui restent drôles. Donc, est-ce que c'est aussi quelque part grâce à lui que la bande dessinée a effectué cette mue?
Alors, je vais apporter juste une petite précision sur la question. En fait, des bandes dessinées à destination du public adulte, il y en a dès avant la Seconde Guerre mondiale, dans les publications quotidiennes, par exemple France Soir. Mais c'est vrai que le gros de la publication et le gros du débouché éditorial pour les dessinateurs dans les années 50-60, c'est de dessiner dans les illustrés pour la jeunesse. Et il y a un changement qui se fait à la fin des années 60, au début des années 70, et qui se passe à la fois en Belgique et en France. En France, il est particulièrement dû à la bande qui gravite autour du journal de Pilote. Donc de ce côté-là, ce n'est pas vraiment lié à Franquin, même s'il les connaît, autour de Goscinny, Gottlieb, enfin surtout Gottlieb, beaucoup plus que Goscinny, plus tard Bretéché, etc. Et du côté belge, en fait, Franquin, il a aidé à faire mûrir le Spirou en tant qu'illustré. C'est-à-dire que Spirou, dans les années 50-60, c'est dans une veine très sociale, chrétienne, qui cherche à éduquer les enfants tout en les divertissant. Et c'est vrai qu'à la fin des années 60, on commence à avoir une inflexion dans le journal qui présente un humour plus adulte, en tout cas plus absurde, aussi un trait de dessin plus novateur, parfois qui s'inspire de l'art abstrait. Et là, le fait que Franquin soit une figure aussi centrale du journal, ça joue beaucoup. Après, il n'est pas le seul à participer à cette mutation, mais comme il est essentiel, il va créer les idées noires, le trombone illustré, etc. Je pense qu'on peut quand même dire qu'il a joué un rôle de déclencheur.
Rapidement, Didier Padomonique.
Ben oui, parce que le trombone illustré, justement, c'est un truc incroyable. C'est Franquin qui devient tellement puissant chez Dupuis que d'abord, il se permet de faire des dessins anticléricaux, alors que c'est le journal catho par excellence, où il y avait un curé dans la rédaction pendant des années. Mais en plus, il impose à Dupuis de faire le trombone illustré, qui est un supplément pour adultes dans un journal jeunesse. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la bande dessinée, et il l'impose parce que c'est Franquin, et il va faire venir dans Spirou, Gottlieb, Bretéché, je pense même qu'il y a Reiser dans le tas.
C'est pas le même public. Hein.
C'est un truc incroyable, alors qu'on a un rédacteur en chef en face, qui est Thierry Martins, qui est un, comment dirais-je, un extrême droite reconnu, enfin, je veux dire, revendiqué. Et donc, ça donne ce curieux mélange d'un supplément complètement libertaire avec un journal qui publie archi-cash, des choses limite réac, Bugdanir, enfin, des choses comme ça.
Donc, une structure réactionnaire qui accueille
presque obligé, qui est presque obligé. Ça va durer un an, et au bout d'un an, ils vont dire « Oui, mais regardez, les ventes du journal baissent, etc. » Mais en fait, ça a été un moment unique de l'histoire de la bande dessinée.
Que ne l'ai-je rencontré pour savoir comment il avait fait. On va faire une nouvelle pause musicale avec Manu Chao, avec Vivatu.
Cada día que me enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera. De la que vende los billetes en el metro. De la barrendera. cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me decapitaría. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú.
Y tú, y tú, y tú, viva tú.
Y el le 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 le. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro.
Se enamora.
Esto me representa. ¿Es así?
Me enamora.
Pásame el guap que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro.
Viva. Vous êtes bien sur France Inter.
Blockbuster.
Avec Frédéric Sigrist.
Nicolas Télope, depuis tout à l'heure, on parle de Franquin, mais si jamais vous deviez faire découvrir un album à un lecteur qui n'aurait pas eu la chance de lire une œuvre de Franquin, bah, laquelle ça serait ?
Alors, mon cœur irait directement à Il y a un sorcier à Champignac, parce que c'est le premier album que j'ai lu des aventures de Spirou, et j'adore cet univers-là. Enfin, le fait qu'il parte en camping, déjà. Enfin bon, tout un truc qui invite à une forme de rêverie, mais accessible. Un peu comme quand on lisait Le Club des Cinq quand on était plus jeune. Si je devais aller un peu plus loin, je pense que je parlerais du Prisonnier du Bouddha. Qui est un modèle de l'album d'aventure, quoi, du récit d'aventure. Ça commence longuement à Champignac, avec de nouveau un mystère, avec des choses qui sont très aussi à la science-fiction, des végétations qui sont disproportionnées. On a l'impression qu'on est dans un film hollywoodien, Voyage au centre de la Terre par Henry Levin. Et après, ça se transforme en histoire d'espionnage, de course-poursuite dans le village. Et de nouveau, après, ça rebondit avec un voyage à l'autre bout du monde, dans un pays asiatique qui est dominé par une dictature, en opération. Opération Commando qui anticipe les 12 salopards, mais avec trois gentils. Et voilà, c'est vraiment un album qui capte l'attention immédiatement, qui ne lâche jamais son lecteur, parce que c'est de rebondissement à rebondissement. Et l'aventure, le récit, l'univers, il n'est jamais fixe. Il se réinvente constamment, jusqu'à aller dans l'exotisme pur, quoi, qui est celui du modèle du récit d'aventure hollywoodien de l'époque, quoi, hein, la jungle, etc. Et voilà, c'est peut-être celui-là auquel je penserais, mais il y en a tellement.
Il y en a tellement. C'était une question compliquée. Hein. Ouais,
quasiment tout Spirou et Fantasio, et tout Gaston et Modeste et Pompon. Et voilà, je pense qu'on peut commencer par là.
Dis pas à Monique. Alors, vous êtes un peu partie prenante, hein, mais faut choisir.
C'est compliqué parce que en fait, moi j'en choisirais un par période. Hein.
Le malin, croyez pas que vous allez l'avoir comme ça. Hein.
Non, mais Franquin, c'est un enfant de la guerre. Il faut jamais l'oublier. Et donc ça, c'est effectivement, dans Le Dictateur, les champignons, c'est un hommage à Chaplin et au dictateur de Chaplin. On va retrouver le sujet de la guerre dans QRN sur Bretzelburg, qui est vraiment quelque chose qui raconte l'occupation allemande et qui parle de ce petit pays, ce petit royaume qui est menacé par le grand royaume d'à côté. Et puis je vais un peu couper de l'herbe à baptême, mais c'est le nid des marsupilamis. L'ami qui est l'album le plus empathique, le plus charmant, le plus incroyable, qui enfin, quand on est enfant et qu'on lit ça, on ne peut être que dans un autre monde.
Oui, avec ce nid qui te reste en mémoire pour l'éternité, fait dans des lianes.
Et la découverte de ce personnage du marsupilami, c'est incroyable, quoi. Les piranhas, le pauvre jaguar.
Oui, le pauvre jaguar, oui.
Voilà, j'espère avoir fait une transition vers un baptême et son marsupilami.
Baptême ?
Oui.
Alors, évidemment, vous êtes l'héritier de Franquin avec le marsupilami. Mais
cette chance-là, oui.
Voilà. Mais en même temps, vous l'assumez divinement bien depuis un certain nombre d'années. Mais quel est, votre album, celui qui vous a marqué le plus de Franquin ?
Alors, évidemment, j'aurais pu dire le nid des marsupilamis.
Oui, mais Didier vous a coupé, voilà.
L'herbe sous le pied, mais par respect pour André Franquin et pour le dessinateur qu'il était et que je suis, je n'aurais pas pris le marsupilami parce qu'il reniait cette époque-là, il reniait le graphisme qui... D'ailleurs, ça faisait partie... Je n'avais pas de contingence particulière quand il m'a demandé de dessiner le marsupilami. C'était un peu ma Bible, mais pas ma Bible graphique. Il m'a dit, voilà, il y a tous les éléments là-dedans, mais je ne veux en aucun cas que tu dessines comme ça. Il reniait cette époque-là, graphiquement, en tous les cas. Donc, il m'avait remis toute une série de photocopies, de dessins et de crayonnés qu'il avait fait par la suite, des dessins beaucoup plus récents. Alors, pour le... Je pense que le premier album, pour être simple, parce que évidemment, moi, j'étais branché directement sur Gaston Lagaffe. C'est Gaston Lagaffe qui m'a éveillé à l'œuvre de Franquin. Mais alors, je vais être plus. Pour avoir raconté une petite histoire, j'ai découvert effectivement le Spirou et Fantasio, non pas à travers la mauvaise tête que j'évoquais tout à l'heure parce qu'elle m'a effrayé, mais à travers Panade à Champignac. Où là, on voit André Franquin. Mais moi, je ne connaissais pas, je n'étais pas vraiment imprégné de l'œuvre. Moi, je suis des années... Enfin, de 1960. Donc, tout le Franquin des années 50, je n'en étais pas encore imprégné à l'époque. C'est par la suite que j'ai découvert tout ça. En revanche, quand je lis Panade à Champignac, je découvre un Spirou complètement loufoque. Le méchant par excellence, qui est Zorglu, qui se fait talquer derrière par Spirou et Fantasio, avec Spip qui se marre en regardant ses... on est dans un monde complètement surréaliste, complètement fou. Alors, évidemment, les aficionados de Spirou et Fantasio vous diront, mais non, dans cet album, il tue le héros. Ben oui, c'est ce qu'il faisait. C'est d'ailleurs suite à ça qu'il dit, j'en ai marre de dessiner ce Spirou qui m'emmerde. Voilà, je répète exactement ce qu'il a dit, il m'emmerde. En revanche, graphiquement, QRN sur Bretzelburg, c'est un monument. Il a été réédité en fac-similé il y a quelques années, pratiquement au format original, et on voit tous les repentirs, tous les le crayonné. On voit ce que je disais tout à l'heure, de quelle façon il redessine tout ça. Une partie est au pinceau, l'autre est à la plume, ou le contraire plutôt. C'est redoutable. Mais j'ai toujours été très, très, très touché par le graphisme des années 70. Quand Franquin revient à la plume. Mm-hmm. Pas un peu moins au Rotring, mais à la plume. Vraiment, c'est cet univers-là que j'aime.
Et, voilà. Et Baptême, justement, vous avez hérité du personnage du marsupilami, et comme vous l'a dit Franquin, il dit, voilà, tu n'es pas obligé de dessiner comme moi. Mais qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé avec la reprise de Gaston Lagaffe dernièrement ? Parce que, évidemment, ça, on en a parlé avec la fille de Franquin, Isabelle Franquin, le fait qu'elle disait qu'il n'avait pas, il n'était pas d'accord pour que Gaston continue sans lui. Vous, quel est votre avis là-dessus ?
Moi, je ne veux en aucun cas rentrer en conflit avec Isabelle Franquin.
Joker, c'est ça ?
Non, pas vraiment. Je vais répondre un peu différemment, par la tangente, en disant que j'ai pris la défense de Marc Delaffe, qui a fait cet album, parce que, dans un premier temps, j'ai été approché effectivement par certains responsables de chez Dupuis, si je voulais bien témoigner de mon expérience avec André Franquin. Évidemment, oui. pas de problème. Je n'aurais en aucun cas dit que Franquin m'avait dit qu'il voulait que Gaston lui survive. Il ne l'avait jamais dit. Moi, ce qu'il m'avait dit quand je lui avais posé la question, c'est qu'il ne voyait pas trop comment il aurait pu lui survivre. Mais quand il a vu le merveilleux travail de Debar sur le Joe Bartim, il a tout de suite été emballé par le graphisme. Et je me demande, je sais qu'il l'a contacté. Était-ce pour envisager éventuellement une reprise de Gaston ? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais bon, pour répondre de façon un peu différente à votre question, quand j'ai vu ce que la presse et ce que certains de mes collègues disaient sur le travail de Delaf, sans même l'avoir vu, je dis, il faut que je défende, que je prenne la défense de cet homme qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui était depuis 8 mois ne parvenait plus à dessiner ou vu de tous ces textes. Donc moi je trouve qu'il a fait un travail prodigieux, et que c'est plutôt, graphiquement, c'est une réussite absolue, et je pense que chez Dupuis, ils sont très contents. Moi, je ne vais pas cracher dans la soupe, ils sont très 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 contents, et il y aura vraisemblablement un deuxième tome.
Ah bah de toute façon, ça a été un succès monumental, et ça veut quand même bien dire que le personnage de Gaston existe dans l'inconscient collectif franco-belge pour longtemps. Et il ne faut pas oublier que les héritiers de Moulinsart, qui sont bien plus protecteurs de Tintin que d'autres éditeurs comme Lucky, d'autres personnages comme Lucky Luke ou tout ça, risquent aussi, si jamais le personnage n'est pas utilisé, de disparaître tout purement et simplement parce qu'il y a énormément de concurrence, le manga, la bande dessinée américaine, et qu'aujourd'hui, il faut faire exister des personnages qui font exister aussi de manière pérenne leur créateur, et Franquin existe aussi par ça.
C'est un large débat, évidemment, hein. Mais moi, je suis prêt à prendre les paris. On attendra plus 50 ans avant qu'il y ait un nouveau Tintin. Bon, mais ça, c'est autre chose.
Les paris sont pris. Merci beaucoup, Baptême.
Avec plaisir.
Merci Didier Pazamonique, merci Jessica Cohn, merci Nicolas Taylob. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs et auditrices de relire l'œuvre de Franquin, parce que vraiment, même acheter juste les idées noires, rien que ça, c'est un tome comme ça, vous avez quelque chose d'absolument magique, de ce qui se fait de mieux. J'aimerais remercier également Charles de Silia qui a réalisé cette émission. Elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani, avec l'aide d'Emilien Miller et de Camille Olive, et à la technique aujourd'hui, Baptiste Gaulion. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour nous parler de Gaston ou des autres sujets abordés dans Blockbuster, ou carrément me poser des questions, faire des suggestions sur Instagram. Vous faites @FrédéricSigrist, je répondrai. Demain, on se retrouve pour parler d'une série télévisée qui est ensuite devenue une franchise à succès. Une mission impossible qui vraisemblablement doit l'être quand même, parce qu'ils en ont fait beaucoup, elle doit être plutôt possible. Donc, mission impossible, c'est pour demain.
Oubi !
Ouba ! Oubaba ! Baba !
Oubi !